Bonjour et bienvenue chez Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Installe-toi confortablement, prends-toi un petit café ou un petit thé, car aujourd'hui, on accueille Arthur Guérin, un champion d'apnée français, spécialiste de l'apnée dynamique, dont il est le champion du monde en 2013, 2015 et 2016. Il a commencé l'apnée en 2010, mais a déjà décroché 4 records du monde et 5 titres mondiaux. Il est le français le plus titré de l'histoire de ce sport, et il se lance actuellement dans des défis et records du monde en apnée sous glace. Allez, on se retrouve tout de suite avec Arthur qui va nous faire découvrir sa passion. Salut Arthur, comment vas-tu ?
Salut Jérémy, ça va très bien, merci.
Pour commencer un peu ce petit podcast, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément ?
Alors, je m'appelle Arthur Guérin-Bohéry, j'ai 37 ans et je suis un apnéiste français. Je vis à Nice. Et j'ai été 5 fois champion du monde d'apnée dans différentes disciplines de l'apnée. Et aujourd'hui, je suis de nouveau au milieu d'un projet de record en apnée. Voilà, donc ça continue depuis 2013. Premier titre de champion du monde en 2013.
Ouais, donc c'est loin d'être la fin. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment t'es arrivé à l'apnée ou peut-être que t'as commencé par un autre sport étant jeune ?
J'ai pas fait de l'apnée directe. Étant gamin, je faisais plein de sports. De toute façon, c'était un peu dans l'ADN familial. Mon père nous a toujours un peu poussé au cul pour faire du sport, mais je dirais que j'ai commencé l'apnée sérieusement plutôt sur le tard, en fait. Justement, j'ai lâché un petit peu le sport pendant mes études parisiennes. J'ai fait des études d'ingénieur du son à Paris. Et suite à ces études, en fait, j'ai voulu me remettre au sport sérieusement. Et c'est là que je me suis intéressé à l'apnée, en fait. Qui est un sport qui m'intéressait depuis gamin, hein, mais qui m'intéressait en vacances quand j'étais sur la Côte d'Azur, quoi. Ça m'intéressait, mais d'un point de vue loisir. Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire dans des clubs, etc. Donc, voilà, à 26 ans, du coup, sur le tard, je me suis renseigné. Et puis, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des clubs partout. Et donc, c'était un sport qui était devenu un sport tendance, un sport à la mode. C'était en plein développement, en pleine explosion. Voilà, et je me suis inscrit comme ça, en fait. J'y suis allé par curiosité, un peu au début. Et puis, très vite, j'ai compris que j'avais trouvé un truc qui me plaisait. Donc, voilà, je me suis mis sérieusement, quoi.
Et du coup, t'as vite vu que t'avais un peu des qualités qui étaient favorables à des performances en apnée. T'avais un coach qui te suivait et qui t'a dit « Oh, c'est possible que tu fasses des belles choses en apnée » ou c'est juste ça s'est fait graduellement avec vraiment l'entraînement
Ouais, un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'entraîner de manière, on va dire, classique, dans le cadre d'une pratique loisir, donc sans forcément avoir en ligne de mire la compétition. Et en fait, j'ai découvert l'apnée comme ça pendant une année. Et puis effectivement, au bout d'un moment, il y a des collègues à moi de bassin qui m'ont suggéré de me mettre à la compétition, me disant qu'il y avait peut-être un potentiel. Voilà. Donc, moi, je savais pas du tout. Hein. J'ai écouté leurs conseils simplement. J'y suis allé et puis ça a bien fonctionné au début. C'était des petites compétitions au début, hein. Interclub, départemental, qui font partie du circuit de compétition fédéral, hein, mais qui sont des petites compétitions, entre guillemets. Voilà.
Et pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'apnée, est-ce que tu pourrais leur expliquer un peu toutes les, entre guillemets, catégories d'apnée qu'il y a, entre l'apnée statique, dynamique, horizontale, donc, ou l'apnée à poids constant, poids variable, ou le no limit ?
Il y a trois grosses catégories, hein, grosso modo. Après, il y a des différentes disciplines dans chaque catégorie, mais en gros, on distingue l'apnée déjà indoor et l'apnée outdoor. Donc, soit ça se fait en intérieur, soit ça se fait en extérieur. Et en gros, c'est soit la profondeur qui se fait en extérieur, du coup, en mer, soit l'apnée dynamique, où c'est de la distance. Ça se fait plutôt en bassin. Et puis la troisième grosse catégorie, entre guillemets, je dirais, c'est l'apnée statique. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas, là, c'est juste une question de temps qui passe. Et ça se fait en général, ça se fait en bassin aussi, hein. Ça se fait en intérieur. Voilà, après, il existe donc des disciplines dans chaque catégorie, je dirais. Effectivement, en piscine, donc en distance, on pourra avancer soit à la palme, soit à la brasse, soit en bipalme d'ailleurs aussi. On peut faire soit monopalme, soit bipalme, soit à la brasse donc. Idem en mer, en profondeur. Ce sera soit en bipalme, soit en monopalme, soit à la brasse. En profondeur, on ajoutera aussi ce qu'on appelle l'immersion libre, c'est-à-dire on se tire sur le câble avec les mains pour descendre et pour remonter. On distinguera aussi ce qu'on appelle le poids variable, c'est-à-dire qu'on descend avec un poids et on remonte à la palme ou à la brasse, en général à la palme plutôt. On distinguera aussi ce qu'on appelle entre guillemets, le no limit, qui ne se pratique plus en compétition parce qu'on a eu des accidents un peu graves, enfin très graves même. Et du coup, on évite maintenant de tenter des records en no limit, qui est une discipline où on descend avec un poids et où on remonte avec un ballon qui se gonfle. Un ballon qui se gonfle avec une bouteille d'air comprimé, voilà. Et donc, comme on est dépendant du matériel dans cette discipline, le problème, c'est que s'il y a une panne matérielle ou un défaut matériel, ça peut vite devenir très grave. Donc, en fait, on ne pratique plus cette discipline, qui est celle avec laquelle on atteignait évidemment les plus grandes profondeurs. Les records étaient à plus de 200 mètres de profondeur, sur les derniers records, là. Donc voilà, on ne pratique plus cette apnée no limites, mais voilà pour les disciplines, donc en piscine et en mer. Et ensuite, à l'horizontale, on va dire, en distance, moi je me lance dans des tentatives de record un petit peu plus marginales, je dirais. Je commence à. Enfin, je commence, non, je pratique l'apnée sous glace, donc je fais de la distance sous la glace. Ce qui rajoute une dimension prise de risque, une dimension acclimatation au froid qui me plaisent bien. Donc voilà, je me suis lancé dans ce genre de défi depuis 2017 maintenant. Voilà pour ce qui est des catégories principales de l'apnée. Après, il existe des disciplines évidemment en compétition qui sont spécifiques, par exemple à l'apnée en distance, qui vont être des disciplines d'endurance. On a des disciplines de fond, vraiment, où on enchaîne les longueurs en apnée avec très peu de récupération. On a par exemple donc le 16 fois 50 mètres, qui est une épreuve où il faut parcourir 16 fois la distance de 50 mètres à la palme. Et il faut que le temps total soit le plus court possible. On récupère ce qu'on veut tous les 50 mètres, mais il faut que l'épreuve totale ait duré le moins de temps possible. On a aussi le 100 mètres speed, par exemple, où l'idée est d'aller le plus vite possible sur 100 mètres en apnée. Voilà, on a des disciplines un petit peu plus marginales, je dirais, comme ça, qui s'inscrivent dans le cadre des compétitions, notamment indoor, compétition fédérale indoor, hein, où on a ces disciplines d'endurance. Mais on va dire que voilà, le principal, c'est la distance à l'horizontale, la profondeur en mer et l'apnée statique. Voilà, en gros, c'est les trois principales catégorie.
Et du coup, toi, tu performes uniquement en apnée dynamique horizontale ou t'aimes bien faire aussi du statique ou...
Alors, non, non, moi, ce que je préfère faire, c'est descendre en mer, hein, c'est ce que je préfère. J'en fais autant que possible, du coup, je vis à Nice maintenant, j'ai quitté Paris, donc je peux m'entraîner en mer, en profondeur. Après, là où je me suis, on va dire là où je me suis illustré, là où j'ai réussi à aller le plus loin dans mes performances, en effet, c'est en distance. C'est en distance à l'horizontale, en apnée dynamique, on appelle ça comme ça. Donc voilà, je pratique toutes les formes d'apnée, mais on va dire que là où je me suis illustré, c'est en distance.
T'as parlé justement d'apnée sous glace. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent à aller regarder ton Instagram parce que c'est vraiment impressionnant, ou même des vidéos sur YouTube de toi, où vraiment c'est très impressionnant de cette nage sous la glace. Est-ce que y a une approche qui est différente parce que tu peux pas remonter quand tu veux au final? C'est-à-dire que t'es un peu obligé d'aller jusqu'au bout, c'est pas un peu plus risqué?
Oui, alors c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans ce défi. C'est que il y a une dimension prise de risque qu'on n'a pas justement en distance en bassin et qui m'intéressait moi. En gros, chaque discipline a ses avantages et ses inconvénients. Hein, c'est-à-dire que en piscine, il n'y a pas de prise de risque parce qu'on a la surface juste au-dessus. Hein, donc en apnée dynamique, on peut sortir un peu quand on veut. Pas de dimension prise de risque. En revanche, il y a un gros travail à faire sur l'envie de respirer. On est les vrais guerriers de l'envie de respirer, comme j'ai l'habitude de dire. C'est vraiment les apnéistes dynamiques en piscine. Voilà. C'est là où c'est vraiment le plus dur mentalement, le plus engageant mentalement. C'est vraiment dans la gymnastique mentale qui est à mettre en place dans l'exercice très spécifique de dépassement de l'envie de respirer en apnée dynamique en piscine. Voilà, là, ça, c'est vraiment l'inconvénient, on va dire. Enfin, le travail principal de l'apnée dynamique en piscine, c'est ça. En revanche, il n'y a pas de prise de risque. Donc, on est plutôt serein par rapport à ça. En mer, par exemple, en profondeur, on va être beaucoup plus sur, effectivement, un engagement mental lié à la gestion de la prise de risque, justement, où il va falloir rester dans le relâchement et la sérénité, je dirais, malgré l'endroit où on va, avec aussi, évidemment, des problématiques liées à la compression, à la compensation, etc. Je dirais que le gros travail mental, c'est de rester dans le relâchement, justement, malgré l'endroit où on va et cette prise de risque. En revanche, en mer, on n'a pas trop envie de respirer. Voilà. Quand on descend en profondeur, on est moins sujet à cette envie de respirer qui peut être très tenace en piscine. Donc je dirais que voilà, les vrais guerriers de l'envie de respirer, c'est les apnéistes piscine. Les vrais guerriers de la prise de risque, c'est les apnéistes en mer, en profondeur. Et moi, en fait, j'avais envie justement d'ajouter cette dimension prise de risque à ma discipline en distance à l'horizontale. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai qu'à nager sous une couche de glace de 50 cm. Et donc, en fait, du coup, je me suis lancé un peu dans ce projet en 2017, voilà, de nager sous la glace. Et en fait, là, du coup, pour cette discipline, pour le coup, de distance sous glace, je cumule tous les inconvénients. C'est-à-dire que j'ai envie de respirer très vite, même encore plus vite qu'en piscine, parce que l'eau froide accélère la mise en place des réflexes d'immersion et donc l'envie de respirer. Et en plus de ça, j'ai la prise de risque, donc je cumule les deux, quoi. C'est un peu la discipline ultime, je dirais.
Ouais, t'as choisi la bonne discipline. Mais en soi, dans les autres disciplines, il y a... Enfin, dans l'apnée en général, il y a un peu la maîtrise de son corps, parce qu'au final, si je dis pas de bêtises, bien sûr, on doit annoncer la performance qu'on va faire avant même de l'avoir fait. C'est ça?
Oui, alors pas en bassin, justement, pas en distance à l'horizontale, mais dans les autres catégories, en effet, on annonce une performance à l'avance, c'est-à-dire... alors, c'est la seule catégorie où on ne fait pas ça, c'est en piscine. Donc, c'est en distance en piscine. Où là, on part pour ce qu'on veut, en gros. Alors, on fait quand même une annonce avant la compétition, mais c'est une annonce qui sert juste à régler les ordres de passage des apnéistes. Mais on peut sortir où on veut. Concrètement, pendant la performance, on sort où on veut en bassin. Alors qu'en mer ou sous glace, par exemple, on annonce effectivement une performance à l'avance. Et quand on descend le long du câble en mer, le câble s'arrête à la profondeur qu'on a annoncée. Et quand je m'élance sous la glace à l'horizontale, le dernier trou de sortie est là où j'ai décidé qu'il serait. C'est là où j'ai annoncé qu'il serait. Donc il y a une annonce à faire avant la tentative de performance.
D'accord. Et ouais, justement, par rapport aussi au danger un peu de l'apnée que t'as énoncé précédemment, l'un des plus gros dangers par rapport à ce type de situation, c'est la syncope. Donc pour les gens qui ne connaissent pas forcément la syncope, c'est plutôt simple. C'est le cerveau qui en gros ne reçoit pas assez d'oxygène et au bout d'un moment, c'est le blackout. Et c'est un peu une perte de connaissance. Et forcément, en apnée, le risque de cette perte de connaissance, c'est la noyade. Je voulais savoir si toi déjà, tu en avais déjà eu, si ça c'était déjà arrivé. Et quelles relations ont un peu les apnéistes par rapport à ça? Est-ce qu'on est obligé de passer par la syncope pour devenir un vrai apnéiste ou c'est vraiment quelque chose qu'il faut ne pas toucher?
Non. L'idée, c'est de ne pas en faire, évidemment. D'ailleurs, la syncope est quand même un truc assez marginal à un niveau loisir, je dirais. C'est surtout un phénomène qu'on rencontre en compétition à haut niveau. Hein. Donc, je dirais que n'importe quel apnéiste qui pratique à un niveau loisir, il ne devrait pas faire de syncope, hein, normalement. C'est-à-dire que, voilà, cette fameuse syncope dont tout le monde parle tout le temps, c'est quelque chose qui arrive à haut niveau. Voilà. Alors après, il faut se méfier quand même, parce que ça peut arriver à n'importe quel niveau, même si on n'est pas compétiteur, hein, évidemment, mais il ne faut pas que ça arrive un niveau loisir. C'est ça que je suis en train de dire. C'est... En fait, ce que je suis en train de dire, c'est pas que ça n'arrive pas à un niveau loisir, c'est qu'il ne faut pas que ça arrive à un niveau loisir. C'est... Ça n'a pas de sens. Parce que on n'est pas censé arriver jusqu'à la syncope quand on pratique l'apnée à un niveau loisir. Donc effectivement, selon moi, c'est quelque chose qui ne concerne que la compétition. Et en effet, c'est quelque chose qu'il faut plutôt éviter, quoi. Ça peut être dangereux, surtout si on est seul, évidemment. Donc, la syncope est en elle-même est bénigne. C'est-à-dire que la syncope n'est pas très très grave. Même si on n'a pas énormément de recul pour savoir ce que provoquent les syncopes à répétition sur le tissu cérébral, a priori, c'est plutôt bénin. En revanche, si on est dans l'eau, on peut se noyer, évidemment. Donc là, c'est beaucoup moins bénin, d'un coup. Voilà, la règle numéro 1 de l'apnée, évidemment, est de ne jamais pratiquer seul. Toujours, toujours, toujours avec quelqu'un qui est capable de repérer les accidents en apnée et d'intervenir face à des accidents en apnée. Donc, vous ne faites pas surveiller par votre grand-mère en vacances au bord de la piscine, hein, ça ne sert à rien. Déjà, elle ne pourra pas vous sortir de l'eau. Et puis, en plus de ça, elle ne pourra pas intervenir. Elle ne saura pas quoi faire. Donc, toujours encadré par quelqu'un qui est qualifié, formé, pour intervenir face aux accidents en apnée. Ça, déjà, règle numéro 1. Et de 2, oui, il y a quelques règles à respecter pour éviter de syncoper, notamment ne pas hyperventiler, par exemple, notamment être à l'écoute de ses sensations, ne pas forcément vouloir à tout prix faire plus que le voisin qui est à côté de soi. Voilà, l'apnée avant d'être un sport de compétition et surtout un sport d'introspection. Hein. Donc l'idée est surtout d'aller explorer, je dirais, la manière dont on arrive à adapter son mental à l'effort, au dépassement de soi. Voilà, c'est une quête très personnelle en fait, hein, de relâchement, de bien-être, de dépassement de soi, avant d'être une discipline où on essaye de faire plus que le voisin, quoi. Voilà, moi c'est plutôt ça ma philosophie, et en gros, si on réfléchit comme ça, et si on est dans cette dynamique, normalement on fait pas de syncope, hein. Donc moi, voilà, 6 records du monde, 5 titres de champion du monde, je n'ai jamais fait de syncope, ni de samba, de perte de contrôle moteur, on appelle ça comme ça, qui est l'état pré-syncopal, donc je n'ai jamais fait ni PCM, ni syncope. Comme quoi, c'est possible à très haut niveau. Et si justement on est dans cette dynamique-là, je pense qu'il faut vraiment réussir à se raisonner comme ça. Sinon, effectivement, on va au carton, comme on dit dans le jargon.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut éviter. Enfin, moi, ce qui suis pas forcément, qui suis pas dans ce sport-là, je pense que ouais, l'intérêt du sport, comme tu le dis, c'est vraiment la maîtrise de soi, et faire une syncope, c'est ne pas maîtriser en soi sa discipline, quoi. C'est être un peu aller un peu trop à l'extrême.
Oui, tout à fait. On a dépassé la limite qu'il ne faut pas dépasser. Alors, je blâme pas ceux qui font des syncopes, hein, à haut niveau. Je veux dire, en compétition, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui arrive, et on flirte en permanence avec la limite, voilà. Mais justement, c'est le monde de la compétition. Donc, c'est très très spécifique à la compétition. Donc voilà. Puis en plus, ça dépend des profils. Il y a des profils d'apnéistes qui sentent arriver la syncope, d'autres beaucoup moins, donc je blâme personne. Hein. C'est, parfois, pour certaines personnes, c'est très difficile de voir venir la syncope. Je dis juste qu'il faut voilà, être prudent et essayer en tout cas de ne pas être dans une optique de faire plus que le voisin à tout prix. C'est surtout ça. C'est surtout un sport à la base qui est... C'est normalement une quête personnelle, vraiment. Moi, c'est ma vision, en tout cas.
Ouais, je pense que c'est une bonne vision. Après, chacun, je pense, a la sienne. Et du coup, pour parler un peu maintenant de préparation physique, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu te prépares justement à ce type d'effort qu'est l'apnée dynamique en piscine?
Bah, je fais une préparation avant chaque compétition, donc avant chaque grosse performance. Je fais une préparation qui dure à peu près 2 heures à partir du moment où j'arrive sur le bassin. Que ces 2 heures de préparation pendant lesquelles je vais passer à travers des exercices d'étirement, des exercices de visualisation, beaucoup, des exercices de respiration, des exercices d'apnée. En gros, c'est ça. Et c'est un enchaînement d'exercices de préparation comme ça qui m'amène dans un état prêt à l'apnée, on va dire, très relâché, où j'ai préparé mon corps aux différents stress physiologiques qu'il va subir, et où je suis prêt aussi dans ma tête. Par rapport, voilà, j'ai préparé mon corps et ma tête, en gros, à ce qui va ce qui va se passer, quoi.
D'accord, ouais, t'essayes de rentrer dans un vraiment un état de relâchement plus total. Bah, c'est intéressant parce qu'au final, t'essayes de trouver cet état de relâchement, mais après, tu vas devoir quand même faire un effort physique. C'est plutôt intéressant. Il faut essayer de balancer les deux, ou c'est vraiment qu'il faut. Oui, le plus important, c'est quand même de rester le plus relâché possible.
L'effort physique est peu de choses en réalité face à l'effort physiologique et mental. Hein. C'est surtout une grosse performance en apnée, c'est surtout un effort physiologique et mental. Vraiment. Hein. Plus que physique. Hein.
Du coup, t'as pas vraiment de préparation physique. Enfin, quand je dis préparation physique, c'est-à-dire vraiment, par exemple, de la musculation ou autre. Vraiment.
Ouais, mais j'en fais parce qu'il faut quand même avoir des muscles efficaces et que de toute façon, tout compte à haut niveau, même ce qu'il y a de moins important. Du coup, on le travaille quand même. Raphaël Nadal travaille la musculature de ses mollets aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pareil pour nous. Même si l'aspect physique, c'est ce qu'il y a de moins important, eh ben, on le travaille quand même. Parce qu'à haut niveau, on va dire que tout est important. Mais la priorité, bien sûr, c'est l'entraînement en apnée et le travail mental. C'est ça le plus important.
Et il y a un peu une connexion entre les deux. Parce que j'imagine que tu fais des entraînements... du coup, en apnée dynamique, par exemple, sur des, je dis des bêtises, hein, l'alternance du coup de longueur en apnée totale et d'autres hors de l'eau. Et au final, t'habitues en même temps ton corps et en même temps ton esprit à ne pas avoir envie de respirer. Les deux sont un peu reliés.
J'ai pas bien compris la question, excuse-moi.
D'un côté... ce qui est quand même le plus important, comme tu l'as dit, en apnée, c'est le mental, c'est le fait de ne pas avoir envie de respirer, résister à cette tentation, entre guillemets. Mais en même temps, elle peut se travailler, du coup, hors de l'eau et dans l'eau, du coup, avec des adaptations, du coup, physiologiques qui se font lors d'entraînement en intervalle d'apnée dynamique.
Ouais, bien sûr. Oui, alors il faut distinguer deux choses, hein, la physio et le mental, hein, c'est deux choses différentes. Les deux se travaillent effectivement en même temps, parce que quand on travaille en apnée, on travaille la physio, on travaille le mental aussi. Donc oui, les deux se travaillent dans le cadre d'entraînement en apnée, comme tu l'as dit, dans lesquels on va travailler soit l'hypoxie, soit l'hypercapnie, soit le lactique, soit la technique, soit le physique d'ailleurs aussi, ça arrive, soit la technique, ouais. Donc voilà, c'est des entraînements qui sont très complets et sur lesquels on va travailler différentes filières. Et tout ça, d'une manière générale, fait travailler le mental. Hein. L'apnée est un sport où on met le mental à rude épreuve, surtout en piscine, encore une fois, surtout en apnée dynamique, en piscine, encore plus sous glace. Mais oui, c'est un truc, voilà, où c'est un des entraînements où le mental est mis à très rude épreuve.
Et pour qu'on se donne un peu une ordre d'idée, tu t'entraînes à peu près combien de fois par semaine ?
Je m'entraîne en apnée pure 3 fois par semaine. Je m'entraîne en acclimatation à l'eau froide 3 à 4 fois par semaine. Je m'entraîne en musculation en salle 2 fois par semaine. En musculation en poids de corps 1 à 2 fois par semaine. Et en cardio foncier 1 à 2 fois par semaine, en gros.
D'accord, ouais, ça fait quand même pas mal d'entraînement. Donc c'est vraiment, pour les personnes qui pourraient ne pas assimiler l'apnée à un sport de haut niveau, ça l'est réellement, quoi.
Oui, ça l'est, bien sûr. Oui, c'est même plus qu'un sport de haut niveau, c'est une discipline de haut niveau. Et oui, les entraînements, soit les semaines sont très très chargées. Oui, c'est deux. En moyenne, c'est deux entraînements par jour. Entraînement, j'inclus dans entraînement l'acclimatation au froid et l'apnée aussi, hein, bien sûr. Pas forcément que physique. Et effectivement, ça va être de la prépa physique le matin et de l'apnée le soir, ou de la prépa physique le matin et de l'eau froide l'après-midi. Ouais.
Et justement, par rapport à cette eau froide, tu suis des techniques spéciales, un peu comme Wim Hof, hein, la méthode Wim Hof, où tu fais un peu ton truc à ta sauce par rapport à ce côté froid.
Je t'avouerai que je fais un peu mon truc à ma sauce. Après, je respecte la méthode Wim Hof, hein, qui est intéressante, et de toute façon, le bonhomme en lui-même est très respectable. Hein, il a fait des trucs qui sont quand même assez dingues. Et puis, c'est un précurseur dans le domaine, ce qui est très bien. Il a démocratisé un petit peu cette technique de ventilation et les bienfaits des immersions en eau froide, ce qui est très cool. Mais de mon côté, non, je suis pas forcément sa méthode. J'y vais comme ça, j'y vais gratos, comme j'ai l'habitude de dire. je trempe mes fesses dans l'eau froide gratos.
Ouais, c'est pas des plus agréables. Hein. Ça, c'est...
Ouais, ouais. Non, mais c'est... En fait, j'y vais... Enfin, c'est pas compliqué hein, de s'acclimater à l'eau froide. Il faut se mettre dans l'eau froide. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de... y a pas d'entraînement miracle, de formule miracle. Voilà, faut juste faire un peu attention à ce qu'on fait quand on y va. Voilà, se mettre doucement dans l'eau... être à l'écoute de ses sensations, y a un effort mental à faire au début, faut travailler un tout petit peu la ventilation quand on se met dans l'eau, voilà, faut faire les bonnes choses aussi quand on sort de l'eau, voilà, ne pas se mettre tout de suite sous une douche chaude, ne pas se mettre tout de suite dans un bain chaud, voilà, ne pas boire tout de suite quelque chose de trop chaud, laisser le corps se réchauffer passivement, laisser venir les tremblements, laisser son corps trembler, manger quelque chose. Voilà. Enfin bref, il y a tout un tas de règles à respecter pour rentrer dans l'eau, comme pour en sortir, comme sur la durée aussi d'ailleurs qu'on va respecter dans l'eau froide, en fonction de la température. Voilà. Enfin, il y a plein de choses à respecter, mais si on respecte bien tout ça, ça peut se faire seul, sans aucun problème. Enfin, seul, toujours surveillé par quelqu'un, pareil. Hein. C'est comme l'apnée, hein. L'eau froide, toujours avec quelqu'un qui est sur le bord, sur la berge. Toujours nager avec une bouée, d'abord, hein, parce que dans l'eau froide, on peut être victime d'une crampe, on peut être victime même d'une hydrocution, d'un malaise cardiaque, etc. Donc, toujours avoir une bouée avec soi pour pas couler au fond, hein, et quelqu'un sur le bord pour surveiller, comme d'habitude, mais quelqu'un qui est formé, pareil. Quelqu'un qui est formé pour pratiquer les gestes de premier secours, voilà. Et qui est formé et qui est surtout capable de nous sortir de l'eau, parce que sortir quelqu'un d'une piscine d'eau glacée, ou d'un lac, ou d'une rivière d'eau glacée, c'est pas facile, hein. C'est quelqu'un qui fait 80 kg, 90 kg ou 100 kg comme moi. Il faut s'accrocher avant de sortir de l'eau quand il est inanimé. Hein. Donc, encore une fois, vous ne faites pas surveiller par votre grand-mère. Hein. Ça ne sert à rien. Quoi. Sauf si elle est très musclée.
Ouais, c'est clair que c'est très important, comme tu as dit. Enfin, l'apnée, ça reste quand même un sport à risque et c'est vivement recommandé.
Je parlais d'eau froide. Hein. Je ne parlais pas forcément d'apnée. Je parlais vraiment d'immersion en eau froide. Là. C'est pareil, mais c'est comme l'apnée, ouais. Okay. C'est pareil, il faut se faire surveiller.
Ouais, clairement. Puis comme tu l'as dit, il faut garder un peu cette notion de progressivité quand on fait des entraînements dans l'eau froide. C'est un peu comme la chaleur à l'extrême, c'est un peu la même chose. Il faut garder toujours cette notion de progressivité pour éviter d'aller direct dans l'extrême. Et c'est là souvent qu'il arrive des accidents, quoi, clairement.
Tout à fait, oui. C'est vraiment une question d'adaptation lente et raisonnée, comme tout hein, d'ailleurs. Hein. Mm. Il faut absolument acclimater son corps dans la durée et progressivement. L'adaptation, c'est vraiment le maître mot de tout ça, comme le dit très bien mon camarade Guillaume Néry, hein, avec qui j'avais fait une visioconférence là-dessus. L'important, c'est vraiment l'adaptation. C'est le maître mot de tout ça, l'adaptation dans le temps. Voilà, tout est question d'adaptation dans l'apnée, comme dans l'eau froide. Mais comme dans plein de choses, en fait, dans la vie.
Puis ouais, souvent, les gens veulent aller souvent beaucoup trop vite. Hein, et ça, on le retrouve dans tous les sports. Je suis persuadé qu'on le retrouve un peu aussi dans l'apnée. Moi, je dis ça par rapport au sport d'endurance. Quand on fait de l'ultra, etc., les gens, ils veulent directement faire un UTMB avant même d'avoir réalisé un marathon ou même un semi-marathon, tu vois.
Ouais, bien sûr. Ouais, les gens sont trop pressés. Les gens sont trop... impatient. Et ouais, mais ça, c'est... Bon, après, je pense que ça fait aussi partie de la culture actuelle, hein, de la spontanéité où tout est disponible très vite. On pense que tout est accessible parce que tout a l'air facile dans les médias, dans les pubs, tout a l'air accessible du bout des doigts, comme ça, sur son smartphone, et puis on a juste à cliquer, puis c'est parti. Et en fait, non, il y a des trucs qui demandent vraiment du temps, de l'adaptation et de l'entraînement. Et je pense que le sport de haut niveau fait partie de ces choses-là. Voilà, ça demande vraiment une adaptation, en fait.
Ouais, c'est ça que j'aime aussi dans le sport, justement. C'est que pour être bon, tu peux pas tricher. Tu n'as pas de raccourci, tu n'as pas... Comme dans d'autres choses dans la vie, tu ne traverses pas la rue pour aller acheter ton pain ou tu as directement de la nourriture, paf, direct, tout est très vite. Tu payes ta. Le sport, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas la même règle, c'est vraiment, il faut du temps et du travail, quoi. C'est pas, t'as ça direct, quoi.
T'as pas de raccourci clavier.
Ouais, et ouais, c'est exactement ça, et c'est vraiment ce que j'apprécie le plus personnellement dans le sport.
Ouais.
Et du coup, ce serait quoi tes prochains objectifs en tant que capnéiste ?
Là, je suis au beau milieu d'un, d'un projet de double tentative de record du monde d'apnée sous la glace. Donc, c'est ce que je fais en ce moment, là, où je me prépare pour... Alors, j'ai déjà battu un record, c'est un projet de double tentative. Donc, il y en a une qui est faite déjà, c'était en mars dernier. C'était en mars dernier en Finlande, où j'ai posé ma marque à 120 mètres sous la glace du lac gelé de Zonanen, où j'avais déjà nagé en 2017. J'avais déjà fait un record en 2017 avec ma palme. Là, cette fois-ci, c'était à la brasse, avec ma petite combinaison. Donc 120 mètres, j'avais fait 175 mètres en 2017 avec ma palme. Donc là, 120 à la brasse, et mars prochain, je repars pour le même type de performance à la brasse, mais cette fois-ci sans combinaison, donc en slip de bain. Ça, ce sera au Canada. Ce sera au Canada en mars 2022, entre le 5 et le 10 mars 2022, très probablement le 5 ou le 6. Ce sera sur cette tentative de record, donc distance à l'horizontale à la brasse, sans combinaison. Sous glace.
Mais c'est pas compliqué de s'entraîner justement au froid à Nice.
Bah en fait là tu vois dans l'arrière-pays niçois, je vais souvent m'entraîner chez ma tante qui a une piscine dans un petit village là d'arrière-pays. Tu vois l'eau est à 7 actuellement dans la piscine, donc elle est quand même,
ah oui.
Elle est quand même très froide. Elle est déjà même considérée comme je dirais glaciale. La nuit il fait zéro ou moins. La journée ça dépasse pas vraiment les 7-8 degrés. Donc tu vois, sur le bord de mer, ça va. Sur le bord de mer, là, tu vois, au soleil, il fait entre 12 et 14 degrés. Mais dès qu'on va dans les hauteurs, dans l'arrière-pays, ça descend très vite. Puis on a des lacs aussi. On a des lacs gelés dans l'arrière-pays, qui sont accessibles assez rapidement, qui permettent de s'entraîner, de s'acclimater au froid. Voilà, il y a des lacs d'altitude. Hein. C'est ça qui est fascinant dans ce département hein, des Alpes-Maritimes, c'est qu'on a... On a la mer et très vite on a les Alpes. Que en un coup de bagnole, on peut passer du bain de mer aux pistes de ski, quoi.
Ouais, c'est comme tu dis, ouais, c'est ça qui est bien. Et puis, forcément, quand on monte en altitude, la température descend. Souvent, c'est 1 degré tous les 100 mètres. Donc, ouais, c'est plutôt facile de trouver des lacs vraiment très froids. Parce que sinon, je t'aurais bien dit de venir en Normandie parce que là, il fait vraiment bien froid.
Ouais, j'en doute pas. Ouais.
Bon, bah, Arthur, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et c'était vraiment super intéressant. J'espère que les personnes qui nous écoutent auront aimé découvrir cette pratique qu'est l'apnée et pourront peut-être s'essayer dans un club. Donc, moi, on les invite à essayer dans un club, toujours surveillé par des personnes qui sont formées pour ce type de pratique.
Il y a des clubs un peu partout. Hein. France, dans les grandes villes, en région, il y a un circuit fédéral, un réseau fédéral de clubs très très bien développé. Et surtout, voilà, après on n'est pas obligé de faire de la compétition, bien sûr, hein. On peut faire de l'apnée à un niveau loisir, comme la grande majorité des gens, on n'est pas forcément obligé d'aller loin dans l'envie de respirer, ça peut être un sport qui se fait en confort, juste pour en ressentir les bienfaits et les côtés agréables. Donc, il n'y a absolument pas besoin de faire de la compétition, forcément. Et voilà, c'est surtout un sport qui apporte énormément en termes de bienfaits, que ce soit sur le plan physiologique ou sur le plan, je dirais même psychique ou même psycho-émotionnel, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Donc voilà, c'est je conseillerais aux gens, évidemment, de s'y intéresser, pourquoi pas d'essayer, quoi. Voilà.
Clairement, puis il y a des adaptations qui sont très intéressantes pour les personnes qui pratiquent les sports d'endurance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ce genre de sport qui nous écoutent, et il y a vraiment des choses intéressantes à aller voir en apnée, ça c'est clair.
Oui, bien sûr, je travaille, oui, ça m'est déjà arrivé d'en discuter avec des athlètes justement venus d'autres horizons, et on a des adaptations, notamment au niveau physio, qui sont très intéressantes pour tous les sports, hein. Parce qu'en fait, la pratique de l'apnée régulière va induire des modifications, notamment d'ordre sanguine, des modifications sanguines, pardon, qui vont être par exemple une augmentation du volume d'hématocrite, donc de la quantité de globules rouges, pour améliorer le transport de l'oxygène, une amélioration aussi de la tolérance à l'hypercapnie, donc à la saturation en CO2. Parce que quand on est en apnée, on est en circuit fermé, donc on ne s'alimente pas en O2 et on n'évacue pas le CO2. Donc on s'habitue vraiment à ces constantes, ces modifications physiologiques, et ça sert dans tous les sports. Hein. Améliorer le transport de l'oxygène et améliorer la tolérance au CO2, c'est vraiment bénéfique. Voilà, donc ça peut être très intéressant, c'est vraiment les impacts qu'on retrouve quand on va s'entraîner en haute altitude, par exemple. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et qui est, voilà, je sais qu'il intéresse... beaucoup d'autres sportifs. Moi, j'ai eu des demandes, plusieurs demandes déjà d'athlètes dans d'autres disciplines qui justement s'intéressent à inclure, enfin sont intéressés pour inclure des phases d'apnée dans leur préparation physique, justement pour aller chercher ces bénéfices.
Mmh. Ouais, ils ont bien raison. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus.
Mmh. Ouais, j'en suis persuadé.
Bon bah, je te remercie encore, Arthur, et j'espère que tes projets vont aboutir et à du coup de nouveaux records encore plus fous.
Bah ça se suit sur Instagram. Hein. Voilà, c'est vraiment sur Instagram où je mets toutes mes actus, Arthur Guérin Boëri. C'est ma page officielle et donc y a tout est relayé dessus.
Ok, super. Je vous invite du coup à aller le suivre sur Instagram pour voir un peu tous ces records et ces belles images, belles vidéos que tu tournes. J'étais allé voir ça, c'était vraiment sympa.
Merci, merci.
Allez, salut, à la prochaine.
Ah, oh, merci.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.